C'est le mercredi. Le mercredi n'est pas un jour comme les autres. C'est une revue de presse un peu plus courte que d'habitude, qui commence un peu plus tôt que d'habitude. Bientôt, elle commencera à 5h du matin. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intro. Il n'y a pas de musique. Et oui, et ceux qui vont arriver dans 5 minutes en mode Ah ouais, mais alors j'ai pris le temps parce qu'il y a la musique. Eh bien, vous aurez raté beaucoup, beaucoup d'actu. Salut Randil, salut Choucar, salut Samuel Etienne. Ah, il y a un mec qui s'appelle Samuel Etienne. Dans le chat, il est abonné depuis le début. Putain, mais c'est un des premiers followers. Il a tous les badges et tout. Incroyable. Pas qu'il est Samuel Etienne, à mon avis, ça va être une belle personne. Vous allez bien? 8h15. Il n'y a plus de limite sur cette chaîne. Eh oui, on est des fous. Eh oui. Normalement, la revue de presse est 9h, 9h15, 9h30. Ça peut commencer à 10h. Mais, deux mercredis par mois, il y a MVP. MVP, c'est à 10h. Donc tu peux pas commencer une revue de presse à 10h alors que t'es une autre émission à 10h. C'est impossible. Voilà, faudrait être dans deux dimensions différentes. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc du coup, je commence plus tôt. 8h30. Sauf que comme j'aime beaucoup l'actu et que ce matin, on a une actu de dingue, 8h15. T'as capté? Voilà, pas compliqué. Comment ça, bonsoir, bonsoir, bonsoir. En même temps, le pseudo, c'est le crépuscule, donc c'est normal. Non, bonjour, bonjour, bonjour. Ça dépend de ton fuseau horaire, Marc. Vous allez bien? Bon, il n'y a pas de musique quand je suis à MVP. Hein. Straight to the point. Putain, vous êtes déjà tellement nombreux alors qu'il n'y a même pas d'intro. Ça fait trop plaisir. Et la chaîne se porte bien. Oh, merci. Je vais bien, je vais bien. Tu nous fais un jingle d'intro? Ok. Je vous fais un jingle d'intro, mais un jingle visuel alors. Ok. Je vous fais un jingle d'intro, ok. Prêt? 3, 4. Voilà, c'est un jingle visuel. Tu as vu, le Maroc a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je sais. Actu très étrange, dont on parlera ce matin, je vous l'ai mise. Je vous l'ai mise. Ah, mais vous avez déjà le sommaire. Ouais. Ah, ça se voit que c'est tôt le matin, je t'ai appelé Étienne. Tu peux m'appeler Étienne, tout le monde se trompe. Les gens qui ont ils ont kikineur, les gens qui ont un nom de famille qui est un prénom, là. Allez, allez. Salut, selon Twitch, t'es un viewer. Ouais, non, ça c'est parce que tu nous regardes sur un Minitel ou sur une PS2. Et vous êtes déjà 352 ici. Eh ouais, Shade, c'est ça d'être à la pointe de la technologie. Faudra demander un truc à Noël, hein. Je sais pas, un iPhone 2 ou un truc iPhone 3, un truc qui va un peu plus vite. Non, les gens qui ont des noms de famille, c'est des prénoms, en vrai. Arrêtez, hein. C'est vous les pénibles. On a le droit de vous appeler comme on veut. Oui, j'ai vu le Maroc. Je l'ai vu même souvent, le Maroc, parce que j'y ai couru longtemps. J'ai fait des courses à pied là-bas. Non, j'ai vu pour la CAN, ouais. Bon, ça va. L'Iran est à feu et à sang. La politique est en révolution en France. Il y a des municipales dimanche. Trump fait des dingueries, mais dans le chat, ça parle que de la CAN. Ok, je vois le sens des priorités, pas de problème. Mais j'ai du foot, j'ai du foot, j'en ai. Ok, vous en voulez, j'en ai. Suis très en forme ce matin. Oh, le bonjour en direct du Québec, il fait plaisir. Salut, 416 Mike. Footch! Ouais, il y a du footch. Ah, merci Dragounet, tu régales. Je te regarde sur mon stroboscope. Quoi? Cette phrase n'a aucun sens. Je suis un boomer, c'est sûrement pour ça que je suis bloqué en 90 quand j'étais sur FR3. Bah oui, Shade, c'est pour ça. Mais on t'aime bien quand même. Oh, le bonjour de l'Australie, tu sais que j'ai passé de bons moments en Australie, moi. Je vois un bonjour du Japon. Waouh, logistique, le Japon, je connais quand même un petit peu aussi. Okay. Mais l'Australie, premier degré, c'est un pays de fou. Je regarde en diapositive. Oh là, la pague. Il y en a un qui va me sortir. Et moi, je te regarde en Super 8 dans le salon. On a fermé les volets. On a mis l'écran avec papa. Et on vient de mettre la bobine. Bonjour du RERB. Hey, let's go. Il est bon ce café? Avec le mug Ma Vie Pro. Bonjour de la France. Voilà quelqu'un d'original. Merci. Grégorio, merci Romu. Bah, ça fait plaisir. En Australie, il y a les araignées géantes qui tombent du ciel comme dans Starship Trooper. C'est vrai, c'est faux. Oui, alors vous ne croyez pas tout ce qu'il y a sur Internet. Hein. L'Australie, le pays où les animaux sont des monstres, où les mouches font la taille d'un bus, où les araignées, c'est des voitures. Oui, c'est un pays un peu fou, effectivement. Quand tu sors des villes, bon, d'abord, 90% du territoire, c'est du bush. Hein, donc effectivement, si tu sors des villes, disons que la faune a son originalité, quoi. Mais bon, tu vas rarement te promener à pied au milieu du pays où il n'y a rien, quoi. Alors, on est mercredi, mais c'est pas une alerte à incendie, hein. C'est juste quelqu'un qui s'est mouché. Je suis dans les studios de MVP là. Je sais pas si vous avez entendu. C'était juste quelqu'un qui se mouchait. Alors, tu es tombé. Il manque des mots. Casser des culs. Cassé, K, les quatre lettres, cassé, DQ, zone à risque, c'est ton pseudo? C'est la vie que t'as choisi? Cassé, DQ, ok. Tu es tombé par au sol aujourd'hui, Samuel. Par terre au sol? Je sens que tu veux me dire quelque chose. Hein? Ouais. Coucou Samuel, le texte du sommaire est tout petit. Bah, et tout n'est pas. Il y a les choses. Oui, je suis pas dans mon studio habituel. C'est quand même un gros sommaire. Et ici, on aime les gros sommaires. Non, je peux pas l'agrandir. Voilà, putain, je vais passer 1 heure et demie. Je veux vous raconter l'Iran, je veux vous raconter la politique, je veux vous raconter la marche du monde. Et pendant 1 heure et demie, il me dit, ah, le sommaire est tout petit aujourd'hui. Je suis pas dans mon studio habituel. C'est pas la taille du sommaire qui compte. Voilà. N'avez qu'à écouter ce que je vais dire. Ce sera bien. Ce sera aussi bien. Non, pas les grosses mères. Encore une sauce, allez, encore une sauce pour Samedine. Le sommaire. Le sommaire. Les amis, si on démarre maintenant, on a 1h40 de revue de presse, 1h40 d'actu. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Ouais. Parce que j'ai vraiment plein de choses. On démarre. Et ceux qui sont pas là, eh ben tant pis pour leur gueule. Eh ben tant pis, fallait se lever. Hein? Pio va super bien, merci beaucoup. Ok, on fait ça? Allez, et tous ceux qui arriveront après, alors il y a ceux qui diront, ah là là, mais ça a déjà commencé, j'ai raté des trucs, vous leur direz, eh ben t'avais qu'à arriver plus tôt. Et tous ceux qui diront, ah là là, c'est pas sa mère de la bêtise, il est tout petit, vous leur direz, c'est pas la taille du sommaire qui compte, hein, c'est pas son studio habituel. Ok? D'accord? C'est votre mission. Bon, je vous rappelle qu'à 10h, on a MVP, hein, Ma Vie Pro. L'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne, ça c'est du pitch. Que le 11 avril, on a le festival MVP à Paris, IRL, c'est-à-dire une grande fête de MVP avec plein de trucs autour du travail, de l'insertion, de l'orientation. C'est gratuit, on va en reparler pendant l'émission. Voilà. Et puis à 12h, toujours dans MVP, on a une ITV d'Arthur Perticoz, hein, l'ancien CEO de la K-Corp, voilà, qui est un jeune homme entrepreneur qui a quand même un parcours de psychopathe. Il a créé des boîtes, en veux-tu, en voilà, un parcours étudiant de dingue. C'est assez intéressant, donc on a deux, trois petites questions à lui poser. Ce sera très intéressant. Ok? Wouh, Moumou, reine des mouettes, t'as trouvé du travail, elle commence lundi. GG. Exactement. On n'a pas fait ça encore. Agent Fisco, il me dit, y aura-t-il... Vous avez déjà eu un MVP sur les métiers de type ethnologue, animaux? Ma fille regarde beaucoup ton émission. C'est une super idée. Une émission sur les métiers en lien avec les animaux. Je sais que c'est une super idée. On ne l'a pas faite encore, celle-là. Je vais en parler à... Paul! Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Ce serait cool un jour de faire une émission sur les métiers en lien avec les animaux. Ouais. » C'est pas mal, hein? C'est une bonne idée. En plus, le pseudo, c'est agent fiscouille. Donc, si c'est un agent du fisc, je pense qu'on va vraiment, écouter sa reco. Ouais. C'est Paul, c'est le rédacteur en chef de l'émission. Bon, ouais, on se l'a mis de côté. Est-ce qu'il y a eu un MVP sur les moniteurs d'auto-école? Non, mais on s'en fout parce que t'es pas agent du fisc. Donc, celle-là, je m'en fiche. Ok. Ok, on y va? Let's go. J'ai vraiment plein d'infos ce matin. C'est-à-dire que je me suis quand même levé très très tôt pour lire les journaux et vous n'allez pas être déçus. Il y a vraiment beaucoup d'actu. Ok? Et j'ai envie de vous faire un petit. Je vous ferai un petit shout-out, je pense, sur. Peut-être sur. C'est intéressant, Paris en vrai. Attends. J'ai Paris. Et il y a le sexe sur ChatGPT aussi. Hein? Allez, let's go. On fait le sommaire. 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne sur Twitch. Alors, elle est un peu particulière celle-là parce que c'est le jour de MVP, on est le mercredi. Et deux fois par mois, le mercredi, On a mon émission MVP, ma vie pro, qui démarre à 10h sur ma chaîne Twitch. Donc, on commence la revue de presse plus tôt, à 8h30. Et elle est un peu plus courte. Mais attention, un peu plus courte, c'est pas la taille qui compte en matière d'actualité. Et j'ai quand même beaucoup d'infos à vous dire. Donc, cette revue de presse, on va la faire sur un train d'enfer. On commence par le sommaire. Je vais vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Let's go! Je vous ai fait une grosse page avec plusieurs articles sur le second tour des municipales sous haute tension. Évidemment, on va parler de Paris parce que c'est un feuilleton incroyable, hein, avec Sarah Knafo qui décide de se retirer et appelle ses électeurs à voter pour Dati. Hein, Sarah Knafo, liste reconquête extrême droite. Donc on a un article, on a une interview de Madame Knafo dans Le Parisien. On a un article, une triangulaire sous haute tension qui était ici à l'instant. On aura aussi... On lira pas tout ça dans le détail, mais on lira les grandes lignes. Une interview du candidat de gauche, Emmanuel Grégoire, dans Libération, et un article de l'Humanité qui nous dit, à ce propos, eh bien, c'est quand même un pari à haut risque. Vous savez que Emmanuel Grégoire n'a pas voulu accepter la main tendue de la candidate LFI Sophia Chikirou, hein, qui du coup y va au deuxième tour, contrairement à M. Delogu, LFI à Marseille. Pas les mêmes strates, et du coup bah, l'Humanité dit c'est quand même un petit pari risqué quoi. Voilà, on verra ça. Et je vous ai mis, je pense, un petit article justement sur Marseille également, vous le voyez, où le LFI Sébastien Delogu se retire, et ça c'est pour Benoît Payan, le maire de gauche sortant. Et eh ben c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va être très compliqué pour le RN de prendre Marseille, mais si il n'y avait pas eu ce move de Delogu, ça aurait été plus compliqué. Donc ça, c'est pour la grosse page municipale, soirée spéciale municipale, dimanche à 20h, bien sûr, sur ma chaîne. On va se régaler. L'Iran, on n'oublie pas que le conflit se poursuit. Un nouveau responsable iranien a trouvé la mort, hein, frappé par l'armée israélienne. Il s'agit d'Ali Larijani. Papier dans la croix, l'élimination d'Ali Larijani met le régime iranien à l'épreuve. Pourquoi? On verra. Et puis, un article assez intéressant également, sur l'énigme Mortaba Khamenei, qui est le nouveau guide de la République islamique en Iran, après la mort de son père Ali Khamenei. Et il y a un article dans Le Parisien assez intéressant qui nous dit qu'il y a beaucoup de rumeurs sur son état de santé. Il aurait été frappé, il aurait été touché par la frappe qui a tué une grosse partie de sa famille. Il serait blessé. N'est-il pas mort, puisque on ne l'a pas vu physiquement depuis cette frappe. Donc voilà, petit article dans Le Parisien là-dessus qui est assez intéressant. Et puis, je vous parlerai d'un, sans transition comme on dit, d'un sujet un peu étonnant. C'est la première fois que je vois un article là-dessus. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. OpenAI veut autoriser les conversations à caractère sexuel sur ChatGPT. Parce que jusque-là, c'était pas possible. Eh oui, les petits loulous. Ouais. Et donc mettre une nouvelle fonctionnalité, le mode adulte. Et le problème, c'est que ça provoque beaucoup d'interrogations, de questions et d'inquiétudes, voilà, vis-à-vis des utilisateurs qui pourraient devenir accro à ce truc. Voilà, on listera ses réserves, ses dangers potentiels et les enjeux, quoi. Voilà. Voilà. Donc on parlera un petit peu de ça ce matin, c'est assez intéressant. C'est un article dans l'Opinion, enfin du Wall Street Journal, traduit pour l'Opinion. Gros article, on essaiera d'aller chercher la substantifique moelle. En conversationnel, ouais. C'est que du texte, hein. C'est pas pour générer des. A priori des images ou des vidéos. Ouais. Et puis, alors là, le sport, il y a de l'actu. D'abord, il y a la balade. La balade du PSG hier face à Chelsea. Hein. 5-2 à l'aller et 3-0 au match retour. À Chelsea, si je dis pas de bêtises, c'est la une du Parisien. Et une qualification pour les quarts de finale. Alors, c'est vrai que le PSG est un peu moins impressionnant en championnat et en Ligue des Champions cette saison que la saison précédente. Mais là, il y a un autre PSG qui est en train de se montrer. Et donc, les supporters du PSG se prennent à rêver en mode « Mais alors, attendez, s'ils jouent comme hier soir, allez, c'est encore un titre, quoi. » Calmons-nous. En tout cas, voilà. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui sont heureux. Comme Clément Dossin, le chef du service sport, qui salue le résultat du match d'hier. Et puis j'ai plein de choses. Merde, je viens de cracher un bout de croissant sur ma tablette. Merde. Encore une sauce. Après, Samuel Etienne, sauvé par le sommaire, on a failli voir son zizi. Samuel Etienne crache des bouts de croissant sur sa tablette. Ce mec est vraiment un gros dégueulasse. Allez, X est pour vous, let's go. Et donc, il a deux très beaux articles. D'abord sur un jeune espoir du tennis français, qui est tout jeune, qui a 17 ans, qui s'appelle Moïse Kouamé. Voilà, un article dans le Figaro qui est vachement intéressant. Invité cette semaine au tournoi de Miami il y a 17 ans, la nouvelle attraction va disputer son premier Masters 1000. Il est très impressionnant. Bon, évidemment, les gens qui suivent un peu le sport et le tennis, je pense que vous connaissiez déjà. Moi, je ne connais pas. Il s'appelle Moïse Kouamé. Il a l'air assez impressionnant. Et quand on regarde ses stats de jeunes joueurs, bah, il est sur des stats des grands champions, quoi. Ah, il faut que ça dure. Pourvu que ça dure. Voilà. Et alors, il y a tellement d'actu que mon sommaire n'a pas réussi à le prendre en compte, mais j'ai un deuxième article hyper intéressant. Regardez. Regardez bien ce qui va se passer en bas du sommaire. OK ? Parce qu'il manque un titre. C'est le titre caché. C'est l'easter egg. Regardez. Regardez. Et hop ! Ah, ça n'a pas marché. Et hop ! Ismaël Camara, l'espoir français du foot américain. Voilà. J'ai un autre article sur un autre espoir du sport français, cette fois en foot US, foot américain. Le gars est parti aux États-Unis. Il s'appelle Ismaël Camara, il a 18 ans. Écoutez-moi. Le mec mesure 1m98 pour 152 kilos. C'est ce gars-là, hein. Il prend les autres joueurs de foot américain qui sont en général des colosses et il les prend comme ça et hop, il les met un à droite, un à gauche, un derrière, un devant. Le mec est un monstre. Et il a une très belle histoire parce que ouais, beau bébé comme vous dites. Et le machin. On a l'impression que le mec qui saisit c'est un minus, tu vois, alors que c'est tous des costauds, quoi. Donc le mec est en train d'être regardé par toutes les grandes équipes de foot américain. Alors, c'est peut-être une future star du foot US. Et il a une histoire. Vous allez voir qu'il a une enfance, le pauvre. Il a pris très cher. Et c'est très beau de voir qu'un jeune comme ça, qui vraiment part dans la vie avec... Il n'a pas toutes les cartes. Et puis après, il se passe des choses, quoi. Donc c'est une très belle histoire. Je veux absolument garder du temps pour vous lire cette histoire, OK ? Donc quoi qu'il arrive, on parlera de ça. D'accord, d'accord ? Il n'est pas beau, mon sommaire ? Hein ? Il n'est pas frais ? Vous avez vu la matière ? On a combien ? On a 1h30 à partir de maintenant pour faire tout ça. C'est beau ou c'est pas beau ? Ouais, ça bosse, hein. Salut Pierlo. Sommaire bien frais ? Bah oui, oui. On a assez vu de la matière ici, je pense. Fake news, on n'a rien vu. Ça, c'est les comptes complotistes de X qui disent ça. On n'a rien vu, en fait. Ça, c'est des mensonges, ça. Et vous le savez si vous avez un petit peu bossé. Oligo ? Et on parlera de la CAN, t'inquiète. Arrêtez avec la CAN, on va parler de la CAN. C'est prévu. Je vous ai mis un petit article sur la CAN. Voilà. Voilà. Arrêtez, les gars. Il y a l'Iran qui a feu et à sang. Il y a la politique en France. Arrêtez, on va parler de la CAN, mais calmez-vous. Il n'y a pas que le foot. C'est fou, ça. Et on y va. C'est incroyable, ça. Ah, les fouteux, là. Je vous kiffe. Allez, c'est parti. Et on va mettre ça pour nos amis de YouTube. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. C'est tous les matins, on passe en revue toute l'actualité. En général, c'est en 3 heures. Mais attention, ce mercredi matin, comme j'ai mon émission MVP juste derrière, c'est en mode on tryhard de l'actu. On va aller très vite. On a 1h30. Et parmi les actus, vous voyez le sommaire ici, il y en a une que je voulais partager avec vous, les amis de YouTube. C'est le deuxième tour des municipales. Voilà, parce que le truc est quand même passionnant comme une bonne série télé. C'est assez fou. Et je vous ai mis plusieurs articles sur ce qu'on attend. Alors, pas dans toutes les villes. Hein. Là, j'ai fait un petit focus sur Paris et Marseille. Mais tout au long de la semaine, on va se pencher sur toutes les villes comme on l'a fait la semaine dernière. Et dimanche à 20h, j'aurai une spéciale municipale deuxième tour sur ma chaîne. Alors, Paris, c'est quand même incroyable. Et ça s'annonce tellement serré comme résultat. Il va y avoir un suspense jusqu'au bout. On a un article dans Le Parisien pour commencer ici qui nous parle d'une triangulaire sous haute tension qui nous donne les dernières infos pour ceux qui ne les avaient pas. Ils étaient 5 qualifiés pour le second tour, 5 candidats qui avaient passé la barre des 10% au premier tour. Ils ne seront que 3 sur la ligne de départ. Et pour connaître le nom du ou de la future maire de la capitale, il faudra sûrement attendre fort tard. Dans la nuit de dimanche à lundi, tant le résultat s'annonce serré entre les deux favoris. Qui sera le maire ou la maire ? Est-ce que ce sera Emmanuel Grégoire pour la gauche ? Est-ce que ce sera Rachida Dati pour la droite ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis le premier tour dimanche, eh ben, il y a eu des ralliements, il y a eu des retraits, il y a eu des non-retraits. Voilà, et on va détailler tout ça. Et c'est assez passionnant ce qui se passe. Depuis l'annonce de la qualification de Sarah Knafo, qui a passé, donc parti Reconquête extrême droite, qui est passé juste au-dessus de la barre des 10%, la campagne de l'entre-deux-tours se déroule sous très haute tension. À 18h ce mardi, les portes de la préfecture ont fermé pour entériner les listes définitives, parce qu'hier soir, 18h, c'était la dernière limite pour pouvoir déposer ces listes. Les trois listes ont jusqu'à vendredi soir pour convaincre et mobiliser, car il ne reste que trois listes. Il reste donc la liste gauche sans LFI d'Emmanuel Grégoire, la gauche droite d'Atti et la gauche LFI de Sonia Chikirou. Hein? Ok? On pensait l'avenir de Sofia, je dis Sonia, parfois je fourche sur les noms, pardon, de Sofia Chikirou scellée lundi soir lorsqu'elle annonçait avoir déposé sa liste, emboîtant le pas à Grégoire qui l'avait fait quelques heures plus tôt. Mais le suspense a été relancé ce mardi avec l'annonce du retrait de Sarah Knafo. La députée insoumise saisit la droite anti-Dati? Non, elle s'est retirée, pressionnée, t'as loupé un épisode, je te raconte. La députée insoumise saisit alors l'occasion de mettre la pression sur son adversaire à gauche. Une conférence de presse est envisagée. Finalement, elle écrit sur les réseaux sociaux: barrer la route de l'hôtel de ville à Dati passe par la fusion technique. Nous avons encore quelques heures pour fusionner. Paris vaut bien un coup de fil, blablabla, blablabla. Effectivement, ils vont se parler, mais ça ne marchera pas. Donc, Chikirou ne peut pas se retirer maintenant? Si il y a un monde où, je vous explique, je vous résume tout, je n'ai même pas besoin de lire l'article, c'est pas la peine. Emmanuel Grégoire, candidat de gauche, municipalité sortante hors LFI, a fait un très bon score au premier tour, meilleur qu'attendu. Madame Dati, en revanche, a fait un moins bon score qu'attendu pour la droite. Okay? À côté de ça, trois autres candidats sont qualifiés. Bournazel, Horizon, centre-droit Macron. Ok? Horizon et puis quel autre parti? Renaissance. Il passe aussi la barre des 10%, il a 11 et des brouettes. Lui, il peut se maintenir. Madame Knafo, extrême droite Reconquête, peut se maintenir. Tout juste au-dessus de 10%. Et Madame Sofia Chikirou peut se maintenir aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? On commence par Bournazel. Bournazel, centre droit, la Macronie, Renaissance, Horizon. Il ne peut pas blairer Dati. Tous les deux se détestent. Ils se sont envoyés des scuds avant le premier tour, monstrueux. Donc, suspense, va-t-il se maintenir? Et finalement, on a appris en début de semaine qu'il se retirait. Voilà. Retirait sans doute sous la pression d'Édouard Philippe, le président d'Horizon, qui dit: tu peux pas le laisser gagner la gauche, c'est pas possible. Peut-être sous la pression du président Macron, on sent qu'il y a eu des coups de fil. Il se retire. Il est tellement pas content qu'il se retire. Mais. Non, c'est pas. Oui, c'est pas. Il se retire. Il fusionne. Sa liste fait une fusion avec celle de Dati. Ça veut dire que les gens sur la liste de Bournazel vont se retrouver sur celle de Dati. Mais lui, il n'y va pas. Lui, il avait une place de numéro 2 sur la nouvelle liste. Il n'y va pas. C'est vraiment une façon de dire ok, fusion, mais ce sera sans moi. Voilà. Mais pour Dati, c'est une excellente nouvelle, évidemment, parce que là, elle peut espérer un gros report de voix des électeurs, des gens qui ont voté Bournazel au premier tour. Pas forcément 100% d'ailleurs, hein, dans les reports comme ça, c'est pas 100%. Ok, bonne nouvelle pour Dati. Deuxième bonne nouvelle pour Dati. Sarah Knafo, la candidate d'extrême droite, qui avait appelé à une alliance avec Dati. Dati lui avait dit pas d'alliance avec toi. Sarah Knafo se retire. Elle ne reste pas au deuxième tour. Voilà. Et appelle ses électeurs à voter pour Dati. Là, les électeurs de Knafo, ils feront ce qu'ils voudront. Certains vont voter pour Dati, certains vont peut-être s'abstenir. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui voteront à gauche. C'est compliqué de passer de Knafo à la gauche. Mais c'est encore une bonne nouvelle pour Dati. Du coup, la candidature de Emmanuel Grégoire, elle est fragilisée malgré son très beau score du premier tour. Voilà. Et dernier épisode, la dernière personne qui était qualifiée dans les cinq, c'était Sofia Chikirou. Et là, il y avait deux solutions. Il y avait trois solutions. Où il y avait fusion des listes, c'est-à-dire qu'il y avait un accord, comme dans certaines villes, entre Emmanuel Grégoire et Sofia Chikirou pour faire une fusion des listes, mais la relation entre les socialistes et les filles, vous savez que c'est compliqué. Hein. Sofia Chikirou avait appelé à une fusion technique des listes, Emmanuel Grégoire, et il le redit ce matin. Ici, dans Libération, il y a une interview, ça vous intéresse, il dit non. Voilà. Il dit non. Première possibilité, ça c'est écarté. Deuxième possibilité, Sofia Chikirou se retire de la compétition, comme Sarah Knafo l'a fait pour Dati. Et Sofia Chikirou dit, bah moi, écoutez, bon, ok, il n'y a pas fusion des listes, mais je ne peux pas laisser gagner la droite. Je me retire et j'appelle à voter. C'est pas forcément mon programme, c'est pas forcément mes idées, mais j'appelle à voter pour Emmanuel Grégoire. Sauf que Sofia Chikirou ne s'est pas retirée. Elle a décidé de se maintenir. Voilà. Alors quelqu'un me disait, mais est-ce qu'elle ne peut pas se retirer quand même? Alors, elle avait jusqu'à hier soir, mardi 18h, pour déposer sa liste s'est déposée, mais techniquement, il y a un monde où elle peut d'ici dimanche encore se retirer de la compétition. Comment? Par exemple, en demandant à ses équipes de ne pas déposer ses bulletins dans les bureaux de vote. Elle peut changer d'avis d'ici dimanche, hein, et dire, écoutez, bon, ok, j'ai déposé ma liste, mais finalement, j'y vais pas. Voilà. Donc le suspense est incroyable. Donc vos journaux en parlent ce matin. Voilà, vous avez une interview de Sarah Knafo dans Le Parisien, par exemple, donc qui a essayé de se retirer au bénéfice de Dati. Bon, alors si ça vous intéresse, vous la lirez dans Le Parisien. La dernière question est intéressante. Écoutez, Le Parisien demande à Sarah Knafo, est-ce que vous pensez que Rachida Dati peut gagner? Réponse de Sarah Knafo, j'espère que la gauche va perdre. Voilà. Le message est clair. Elle dit aussi entre le mal qui pour Sarah Knafo et la gauche est le moindre mal, Dati, eh bien je choisis le moindre mal. Ça c'est Knafo. Vous avez une interview d'Emmanuel Grégoire dans Libération qui explique pourquoi il a refusé la fusion de liste avec Sofia Chikirou. Il dit que c'est une question de valeur. Il dit j'ai dit que je le ferai pas, je le fais pas. Voilà. Et il appelle bien sûr. Tous les électeurs de gauche à voter pour lui. Tiens, regarde. Là, on va directement à la question, pour moi, la plus essentielle de cette interview. Libération demande à Emmanuel Grégoire. De votre côté, vous avez refusé de vous allier avec la candidate de LFI, Sofia Chikirou. Ne prenez-vous pas le risque de faire perdre la gauche? Réponse d'Emmanuel Grégoire. Nous répondons à cette configuration par la cohérence et la clarté de notre projet. Notre projet a d'immenses convergences sur le fond avec celui de Sofia Chikirou. Nous avons des différences de style, des différences de valeurs, mais sur le projet municipal, on se retrouve sur la priorité au logement, la transition écologique, les quartiers populaires, la lutte contre les discriminations, le racisme, le soutien aux associations. Mais, eh oui, le problème c'est le mais, ces convergences de fond n'efface pas la brutalisation qu'a opérée Sofia Chikirou tout au long de la campagne. Il y a eu des mots très tendus entre les deux. Hein. La cohérence politique à gauche pour Paris, faire rempart à la droite extrémisée, c'est voter pour nous afin d'empêcher Rachida Dati d'être maire. Je crois que dans l'édito, on parle de ça. Je sais plus, mais ce matin, la presse rappelle les propos de Sofia Chikirou avant le premier tour. Elle avait notamment déclaré jamais un maire socialiste à Paris, quoi. Donc voilà. Il rejette la faute sur Chikirou, bien sûr, bah c'est les petits feuilletons de la gauche, quoi, habituel. Donc, si ça vous intéresse, le pourquoi du comment, vous avez une grosse interview dans Libération. Que dit Paul Quignot dans son édito dans Libé? Je vais à la fin de l'édito. Souvent, le plus intéressant, c'est la fin des articles. Le message d'Emmanuel Grégoire qu'il adresse dans Libé est assez simple. Alors que Rachida Dati a fusionné sa liste avec celle du centriste Pierre-Yves Bournazel, et que la candidate d'extrême droite Sarah Knafo s'est retirée, les électeurs de gauche n'ont qu'une seule option pour poursuivre la politique de transformation entamée il y a 25 ans. Trop simple, peut-être, mais pas faux, estime Libé. Ne inquiétez pas. Il y a un petit aspic pas loin, mais je pense qu'avec le micro que j'ai, vous ne devriez pas trop l'entendre. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu sur Paris, je lis vos réactions, et après on ira à Marseille. Parce qu'à Marseille, Monsieur Delogu, qui était un peu dans la même problématique, lui, donc LFI, a décidé de se retirer au bénéfice de Payan. Donc a fait le move inverse de Madame Chikirou à Paris. Ça, c'est intéressant. Allez, je vous lis. Alors c'est intéressant vos réactions. Il y a des électeurs parisiens dans le chat. Xarante, c'est question de valeur et de cohérence. Je voterai Sofia Chikirou dimanche. Je vous lis, je vous lis. Céder maintenant au PS créerait un précédent qui mènerait à la possibilité d'alliance pour les années à venir. Bah, dis ça à monsieur Delogu à Marseille, Ulysse, parce que c'est ce qu'il a fait, lui, pourtant. Oui, Bordeaux, c'est très intéressant, même j'ai aussi, mais je ne vais pas avoir le temps d'en parler ce matin. De Sertine qui finalement n'a pas déposé de liste au second tour. Manifestement, il a eu la pression de gens de sa propre liste qui disaient si tu te maintiens, nous on va arrêter. C'est assez intéressant. Mais j'ai pas le temps ce matin. Mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler d'ici dimanche. À Bordeaux, ouais. Alors le ASK, donc qui se rend range manifestement plutôt à gauche dans notre chat, nous dit ce serait dramatique de perdre Paris, comprenez, je pense pour la gauche, hein, qui est préside aux destinées de Paris depuis un petit moment déjà. Mais si ça pouvait donner un coup de pied dans la fourmilière pour une union, alors je suppose union à gauche, pour la présidentielle. Alors, Biftek dit bah oui, mais à Marseille, c'est pas pareil, parce qu'il y a la menace de l'extrême droite. Alors, Rachida Dati n'est pas une candidate d'extrême droite, mais notons quand même que l'extrême droite se retire au profit de Dati. Pas la même chose, mais je pense qu'il faut quand même prendre ça en compte. Si elle se retire, il n'y a pas de conseiller insoumis. Non. Sauf ceux élu au premier tour dans certains arrondissements, s'il y a eu des gens qui ont été élus au premier tour, hein, c'est la seule exception. Par exemple, si je dis pas de bêtises, ce que j'ai lu ce matin, c'est Sarah Knafo se retire, donc les gens de sa liste peuvent pas être élus, hein, parce qu'il n'y a pas de fusion des listes, mais elle a été élue. Attends, elle a été élue au premier tour, si je dis pas de bêtises. Attends, peut-être une bêtise, c'est peut-être pas Sarah Knafo, il y a une histoire comme ça. Ouais, c'est la seule exception. Alors justement, on parle de Marseille, allons à Marseille. Voilà. Et puis d'ici la fin de semaine, on va balayer toutes les villes, hein, comme je l'ai fait la semaine dernière. Bien sûr qu'on parlera de Bordeaux, de Lille, de Nice. On a beaucoup parlé de Nice hier avec Éric Ciotti qui va sans doute devenir maire, hein, a priori. Hein. Bah, j'ai pas dit ça, mon Kimi. Vous pouvez pas dire des trucs pareils, Samuel, si le RN se retire, ça fait pas de Dati une extrême droite, c'est beaucoup trop partiel comme commentaire. Bah tu n'as tu ne c'est pas on ne on ne c'est marrant les gens qui entendent ce qu'ils veulent entendre. J'ai juste dit que l'extrême droite s'était retirée au profit de Dati. Après, si toi tu en tires cette conclusion, c'est ton problème. Réécoute, t'as le replay. C'est ça le problème du militantisme. Le militant, alors c'est très bien d'être militant, hein, moi je trouve que c'est bien les gens qui se battent pour leurs idées, pour les partis politiques. Le militant, il passe toute l'actualité au filtre de ses valeurs, sans s'en rendre compte d'ailleurs, et il ne va retenir que les éléments qui vont dans son sens. Et quand c'est pas tout à fait le cas, il entend autre chose. C'est ce que tu viens de faire. Bah, c'est pas moi qui ai inventé que Sarah Knafo avait décidé d'appeler pour Madame Dati, à voter pour Madame Dati. Elle n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Grégoire. C'est juste factuel. Alors, Marseille. Alors, Marseille, contrairement à Paris, Sébastien Delegue, lui, se retire. Et Benoît Payan, bah forcément, lui, il respire. Parce que sinon, il y avait une vraie chance pour le RN d'emporter la ville. Lisons. Le maire sortant de Marseille, Benoît Payan, peut souffler. Avec le retrait du député insoumis Sébastien Delogu de la course à l'hôtel de ville, le socialiste voit son horizon se dégager dimanche face au candidat du RN, Franck Alizio, qui avait fait un très bon score au premier tour. Il s'oriente donc probablement, bon, je pense qu'il faut rester prudent, vers une probable réélection, lui qui avait succédé à l'écologiste Michel Rubirola après son élection en 2020. Rappelons que M. Payan, il n'a pas été élu, lui, en 2020. Hein. C'était Madame Rubirola qui avait été élue. Mais elle avait démissionné très très vite. Et c'est son premier adjoint, M. Payan, qui avait été élu. Donc s'il est élu, là c'est la première fois qu'il sera directement élu. Au premier tour, il a glané 36,7% des suffrages, 35% pour le candidat de RN. Vous voyez que ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Et quant à Martine Vassal, candidate de la droite, elle se maintient. Elle a réuni 12,41% des intentions de vote. C'est pour ça que beaucoup disent qu'il n'y a pas trop de suspense. Entre Madame Vassal, candidate de droite, qui ne se retire pas, et donc il y a des voix qui ne vont pas pour partie aller potentiellement, éventuellement, c'est les électeurs qui décident sur la liste du RN, plus Delegu qui appelle, lui, à voter pour Payan, bah, du coup, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de suspense à Marseille. Alors pourquoi cette décision? L'air solennel, Sébastien Delegu, qui a recueilli près de 12% des voix au premier tour, a annoncé ce mardi matin sa décision de se retirer. Jamais je ne céderai un millimètre de terrain face à ceux qui veulent condamner la jeunesse marseillaise à la ségrégation et à la misère. Face à ceux qui criminalisent des populations de quartiers entiers de notre ville et qui fracturent l'unité du peuple français. Face à ceux qui discriminent ceux qui n'auraient pas la bonne couleur de peau, la bonne religion, la bonne origine, a asséné le trentenaire proche de Jean-Luc Mélenchon. Nous, on a donné des consignes de vote, elles sont très claires. C'est faire barrage au RN, a ajouté un peu plus tard l'ancien chauffeur de taxi marseillais de 38 ans. Avec l'espoir de s'imposer comme le sauveur de la gauche à Marseille. Quant au président du RN, Jordan Bardella, parce que du coup pour le RN, c'est quasiment mission impossible maintenant de gagner Marseille, il a demandé, lui, au président des Républicains, Bruno Retailleau, de faire pression sur Martine Vassal pour qu'elle retire sa liste. Normalement, c'est impossible, puisque les listes sont déposées depuis hier soir, 18h. Mais attention au coup de théâtre, dans les infos que j'ai lues ce matin, il y avait un truc très intéressant. Un candidat qui a maintenu sa liste le mardi à 18h peut tout à fait décider le mercredi, le jeudi, le vendredi ou le samedi de ne pas déposer ses bulletins de vote dans les bureaux de vote. Et donc, finalement, de prendre une décision de retrait après mardi 18h. Voilà. Donc, il peut encore se passer des choses. Je vous lis et on enchaîne, on va en Iran. J'entends énormément parler des résultats et des stratégies gauche-droite extrêmes et très peu de résultats du camp présidentiel. Tu pourrais nous en parler, bien sûr, Coco Stock, ça va être super rapide. Le camp présidentiel ou municipal, c'est ça. En fait, ce qu'on peut appeler la Macronie, appelle ça comme tu veux, est très, a, en deux mandats du président Emmanuel Macron, n'a pas du tout réussi à s'installer au niveau local et au niveau municipal. Donc il y a eu très peu d'élus macronistes en 2020. Et en fait, voilà, ça n'a jamais été une priorité pour le président Macron, l'échelon municipal. Et donc, voilà, c'est les résultats du camp de Macron, si tu veux, dans ce premier tour des municipales, totalement anecdotiques. C'est pour ça qu'on en parle très peu, quoi. Je rappelle qu'il y a 35 000 communes en France. Plus de suspense que dans Koh-Lanta, j'avoue. C'est assez passionnant, je trouve. Parce que c'est pas que les élections locales, c'est des élections locales, mais c'est des élections locales avec des conséquences nationales. Ce qui se passe là va avoir des conséquences sur 2027. Donc on est dans la poursuite de la recomposition du paysage politique français. C'est vrai que personne n'a dit vraiment que la Macronie s'est pris une claque quand même. Si, clair. Dans les articles qu'on a lus, dans la presse écrite, on a lu quelques papiers pour le dire, mais après, comme c'est anecdotique, ça fait pas la une des journaux non plus, quoi. Disons qu'il y a zéro surprise. Ils étaient faibles avant, ils sont toujours faibles au niveau local, quoi. La question, c'est qu'est-ce qui restera de la Macronie après le deuxième mandat du président Macron? Ça, c'est une autre question. Dans la presse écrite, ouais. Ok? Bon, sachant que demain, jeudi, vendredi, peut-être je vous ferai une revue de presse samedi, on reparlera de tout ça bien sûr, on ira dans des villes que je n'ai pas évoquées ce matin, mais que j'ai pu évoquer ces derniers jours, Lille, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Nice, Nantes, Rennes, Roubaix s'est plié, hein, parce que c'est... il a été élu dès le premier tour ou pas le candidat LFI, où il est tellement en avance que c'est... Ou c'est la balade pour le deuxième, enfin bon, c'est plié. Agen, Sugar, si tu veux. Ok? Et puis, dimanche soir, spécial, 20h. Alors, je voulais vous parler de l'Iran ce matin. Ce matin, la revue de presse est un peu plus courte. Donc, professeur, 1h30, je vais un peu plus vite. Alors, l'Iran. L'Iran, deux actus importantes. Pardon. D'abord, la mort d'un nouveau responsable du régime. Il s'appelle Ali Larijani. Il y a plusieurs papiers ce matin. Il y a une pleine page dans La Croix. L'élimination d'Ali Larijani met le régime iranien à l'épreuve. Personnage très influent de la République islamique, il a été assassiné lundi par l'armée israélienne. Sa disparition porte un coup sévère, estime La Croix, à un régime prêt à poursuivre la guerre aussi loin que nécessaire. Alors, qui était-il? L'article nous l'explique un peu plus loin. C'est le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. Ce qui est intéressant dans le régime iranien, c'est qu'il y a plein de niveaux de responsabilité. Il y a le. Merci Somilan. Mais c'est un mensonge parce que tu ne l'as pas vu puisque c'est une fake news. Ah oui, on ne l'a pas vu. Parce que j'ai un gros sommaire. Point d'exclamation debunk. Non. Point d'exclamation Zizigate. Dans le chat. Je reviens à l'Iran. Cette phrase est un peu étrange. Dans le régime iranien, il y a plein de strates de pouvoir. Il y a le guide de la République islamique. Il y a le président. Il y a les gardiens de la révolution. Voilà. Et en fait, donc c'est une des difficultés des Américains et des Israéliens, c'est que tu as beau taper plein de. Voilà. Le pouvoir, il est à la fois il est très centralisé et en même temps il est très dilué. C'est compliqué de mettre un régime comme ça à terre. Lui, par exemple, il est le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, très influent, estime La Croix. Et 16 jours après l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei, dont il était très proche, il a été à son tour frappé, tué par une frappe israélienne nocturne avec le commandant de la milice Basidji, le général Gholam Reza Soleimani. Et l'armée israélienne le présentait d'ailleurs, ce monsieur Larijani qui vient d'être tué, comme le leader de facto du régime iranien. Alors on pourrait penser que le leader du régime iranien, c'est pas lui, c'est le fils Khamenei, dont on va parler juste après là, Mortaba Khamenei, hein, le nouveau guide de la République islamique. Mais pourtant, pour les Israéliens, non, c'est pas vraiment lui, le vrai patron, c'était Ali Larijani, et c'est lui qui est mort en début de semaine. Alors après, il y a La Croix qui revient un peu sur son parcours. Hein. Combattant des gardiens de la Révolution, chef du Parlement, chef de la propagande, ministre, négociateur sur le nucléaire, philosophe, spécialiste de Kant, jusqu'à devenir l'artisan de la répression sanglante des manifestations de janvier. Ah ouais, ce mec-là, c'est lui qui a dirigé la répression sanglante contre les Iraniens et les Iraniennes quand ils sont descendus dans la rue et qu'ils ont été tués par milliers, peut-être dizaines de milliers, quand ils ont osé défier le pouvoir en place. Ok, d'accord. Alors Israël le présente comme le patron du pays. Ce n'est pas l'avis d'un historien et spécialiste de l'Iran qui s'appelle Jonathan Pirro qui dit c'est une perte pour le régime, mais ça n'était pas le leader de facto du pays. Ce conservateur pragmatique était surtout un homme de réseau, incontournable, indétrônable, un de ces personnages de l'ombre qui dirige tout sans devoir rendre des comptes. Israël veut croire quand même que son assassinat marque une étape majeure dans la guerre. Cela devrait non seulement accentuer le désarroi du régime, mais aussi nuire à sa capacité de planification stratégique et de direction centralisée. Mais, et c'est ce que je vous disais au début de notre échange sur l'Iran, quoi qu'éprouvé, le régime a montré ces derniers jours une vraie capacité de renouvellement de ses têtes, hein, avec la nomination lundi de Mohsen Rezaei comme conseiller militaire auprès du nouveau guide suprême, Mortaba Khamenei, dont je vais vous parler dans un instant. Voilà. Et la fin de l'article est très intéressant. C'est Jonathan Piron, le chercheur, qui dit non seulement les frappes. Écoutez bien parce que c'est vraiment intéressant pour la suite. Je joue vraiment mon prof, moi. Mais je suis insupportable. Écoutez, écoutez bien les enfants. Non, non. Non, je sais que le cours a commencé il y a 3 quarts d'heure, mais restez concentrés. Non, ben bah oui, non, mais oui, tu as mal dormi. Oui. Un nouveau jeu vidéo sorti cette nuit. Tu l'attendais depuis longtemps. Comment tu dis GTA 6? Non, c'est pas vrai, il n'est pas sorti encore. Carabistouille. Quoi? C'est ton chien qui a mangé ta trousse? Ah. Je suis insupportable. Un vrai prof, quoi. Pardon. Donc, la fin de l'article, Jonathan Piron, le chercheur, dit: non seulement les frappes, qui ne sont pas du tout destinées à aider la population iranienne, ne font pas tomber le régime, mais elles risquent de le radicaliser davantage. Voilà. Donc voilà. Quelqu'un me disait, mais qui est mort? C'est ce monsieur Ali Larijani qui était l'un des responsables du régime. Le problème, c'est que le régime iranien, il a plusieurs têtes et c'est un peu compliqué. À propos de têtes, regardez. Donc il y a un article dans Le Parisien sur l'élimination d'Ali Larijani. Et il y a des questions sur l'énigme Mortaba Ramanei. Alors, Mortaba Ramanei, c'est qui? C'est le fils de l'ancien guide de la révolution islamique, Ali Ramanei, hein, qui n'était que le deuxième guide de la révolution islamique depuis Roménie. Hein. Et donc, lui a été tué au début des frappes, là, Ali Ramenei, ainsi qu'une bonne partie de la famille de Mortaba Ramenei. Je crois qu'il a perdu sa mère, son épouse. Enfin bon, voilà. Et celui qui a été nommé à la place de son père, c'est donc Mortaba Ramenei. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas vu physiquement depuis. Et du coup, il y a des questions. Mort, murmurent certains. Grièvement blessé, méconnaissable, plongé dans le coma, disent d'autres. Depuis son élection le 8 mars, Mortaba Ramenei, fils de l'ancien guide suprême, est happé par un tourbillon de spéculation. Moulagouf, tu comprendras qu'après ce message que je trouve un peu limite, tu te prennes un petit théo rapide. Voilà. Franchement, hein, c'est un peu abusé, quoi. Je pense que tu comprendras. La classe est un peu dissipée. Au cœur de cette énigme, un silence assourdissant, parce que depuis le 28 février, plus aucune trace de l'homme de 56 ans. Ce matin-là, à 9h32, des missiles frappent la résidence familiale au cœur de Téhéran. Son père, son épouse, leur fils de 19 ans sont tués sur le coup. Lui se trouve dehors dans la cour. Dimanche, Trump attise encore les braises. Bon, ça c'est Trump, ça rajoute pas beaucoup d'infos, comme souvent d'ailleurs. Voilà. Et il déclare face à la presse: nous ne savons pas s'il est mort ou non. Beaucoup disent qu'il est gravement défiguré, qu'il a perdu une jambe, qu'il a été grièvement blessé. Vous savez, il n'a pas parlé. Bon, les infos venant de Trump en général, on fait attention parce que le lendemain, il peut dire autre chose. Comme pour épaissir encore le brouillard, la première prise de parole du nouveau guide de la révolution islamique se fait sans lui. C'est une présentatrice de la télé iranienne, si je ne dis pas de bêtises, qui lit un communiqué. Ouais, c'est ça. Donc, question. Quelqu'un me disait dans le chat, mais peut-être qu'il se cache, peut-être qu'il se fait discret pour ne pas être frappé à son tour également. C'est pas inintéressant. Tiens, bah d'ailleurs, c'est l'avis de, comme quoi, d'un chercheur qui s'appelle Clément Terme. Un chercheur enseignant à Montpellier. Cela relève pleinement de la guerre informationnelle. S'il n'apparaît pas, c'est d'abord pour des raisons de sécurité, pas nécessairement par stratégie. Et reste que l'affaire fascine. La fin de l'article est vraiment intéressante. À mesure que l'homme disparaît, la figure grandit, flirtant l'attente messianique dans le chiisme. Puisqu'on rappelle que les religieux au pouvoir en Iran sont des chiites et pas des sunnites. Le 12e imam a disparu pour mieux revenir un jour, explique une professeure franco-iranienne de sociologie à Paris. Ne pas le montrer peut jouer sur cette symbolique, mais je crois plus à un effet induit que vraiment recherché. Voilà. Donc, est-il blessé? Est-il mort? Se cache-t-il pour échapper aux frappes? Fait-il exprès d'être en retrait pour revenir et que finalement les rumeurs fassent de lui quelqu'un d'un peu mystérieux à suivre. Bon, alors je vous ai pas fait un petit paragraphe ce matin sur le détroit d'Ormuz. Je vous résume l'actu. Pas de changement. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Trump est très énervé. Hier, on a lu un article où il mettait la pression sur ses partenaires de l'OTAN en disant: Dis donc, vous allez me débloquer le détroit d'Ormuz, là, hein, sinon il y aura des sanctions. Donc, effectivement, Macron a répondu non, d'ailleurs. Donc, on en était là. Détroit d'Ormuz toujours bloqué. Donc, des tensions sur le marché du pétrole. Voilà. Donc, toujours l'inquiétude sur une éventuelle crise économique liée à ça. Et la question toujours derrière, c'est combien de temps va durer ce conflit? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que Trump, là, je ne sais pas non plus. Réponse de la France, non. La France a dit non. On y reviendra sans doute demain. Je pense que c'est compliqué de ne pas en parler au quotidien de cette histoire. Les États-Unis font toujours partie de l'OTAN? Oui, toujours. Malgré les critiques de Trump sur ses partenaires qui estimant que c'est les Américains qui font tout le boulot. Hier, on lisait un article sur le sujet avec un chercheur qui disait: si jamais les États-Unis se retirent de l'OTAN, attention à ce que pourrait faire la Russie, qui pourrait estimer qu'il s'agit d'un aveu de faiblesse de la part du camp occidental et qui pourrait tenter de nouvelles choses en Europe. À suivre. Voilà. À suivre, mais ça, on en parle tous les jours. Je vais un peu vite parce que j'ai plein d'actu ce matin à vous lire. Je suis content parce que malgré les infos, bon, je suis un peu plus rapide que d'habitude et je m'en excuse, mais je pense qu'on va pouvoir évoquer plein d'actualités, notamment celle-ci. Interview d'Arthur Perticose, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, on va parler une heure avec Arthur. Arthur Perticose, l'ancien CEO de la CACORP, moi je le connaissais pas, hein, trop. Enfin, je savais qui il était, bien sûr. On s'est même défié à une époque pour un 1v1 Valo qu'on n'a jamais fait encore. Et donc je savais qui il était, mais je ne connaissais pas son parcours. Mais il a un parcours de fou. Mais ce mec a. Le mec a une trentaine d'années, il a fait des études de fou, il a charbonné comme un dingue, il a créé des boîtes, il a vendu ses parts, il va de projet en projet. Il est assez impressionnant, quoi. Donc on le reçoit à midi pour voir un petit peu comment ça fonctionne chez lui. Un businessman, c'est ça. Donc ça, c'est à midi. Alors, moi, je voulais vous parler aussi ce matin de sexe. Et on va mettre ça sur YouTube. Ça va les intéresser, nos amis. 3, 4. Mathieu, si t'es là, c'est pour toi. Oui, j'ai dit sexe. Tiens, d'ailleurs, je vais charger mon WhatsApp, attends. Pour envoyer tout à l'heure un message à Mathieu. Voilà. Bougez pas. C'est parce que je n'ai pas mon setup habituel. Voilà, ça devrait aller normalement. Voilà, c'est en train de charger, super. Voilà. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour, vous êtes dans la matinée Étienne. Il y a une actu qu'on voulait mettre en avant pour vous également. C'est dans l'Opinion, le journal L'Opinion, qui tous les jours propose à ses lecteurs des articles traduits du Wall Street Journal, le célèbre journal américain. Et là, on a un article dans le Wall Street Journal sur le fait qu'OpenAI veut autoriser les conversations à caractère sexuel, ce qui aujourd'hui n'est pas possible, est interdit, sur ChatGPT. J'ai mignon, j'ai un petit garçon à la maison, mon deuxième, qui a 6 ans, il dit, c'est trop charmant. Il dit ChatPTT. Oh. Il dit, ouais, papa, ChatGPT, t'as même pas envie de le corriger, c'est tellement mignon, c'est tellement deux mondes, deux époques qui se rencontrent, les PTT, les plus jeunes, c'est la poste. C'est l'ancienne, la poste. Et poste, voilà, chat PTT, c'est tellement chou. Là, hier, je lui ai dit, c'est chat GPT, il m'a regardé en mode, qu'est-ce qu'il raconte lui encore? Bon, et donc ça, c'est nouveau. Donc, les amis, on parle de sexe. Qu'est-ce qui se passe? En janvier dernier, les membres du conseil d'OpenAI sur le bien-être et l'IA se sont réunis avec la représentante de la société pour évoquer une nouvelle fonctionnalité des plus controversées, le mode adulte. L'an dernier, Sam Altman, le patron d'OpenAI, avait lancé l'idée d'autoriser, écoutez bien, les conversations érotiques sur ChatGPT. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Il y a Ulysse qui dit j'adore le sexe, tant mieux. Eh bien, c'est pour toi. Et donc de revenir sur l'interdiction des contenus à caractère sexuel sur ChatGPT. Aujourd'hui, il n'y a pas. Ce projet avait suscité de fortes controverses en interne compte tenu des risques. Alors, on va voir dans l'article, hein, qui fait une grosse page, bah oui, parce qu'il y a des risques. What could go wrong, nous dit Pistello à l'instant. Les membres du conseil, issus de domaines tels que la psychologie et les neurosciences cognitives, ça me fascine moi les neurosciences, s'étaient montrés très réservés. OpenAI avait alors annoncé la grande nouvelle, malgré toutes les réserves, le projet allait voir le jour. Donc, vous avez compris que les membres du conseil d'OpenAI sur le bien-être et l'IA, eux, sont farouchement contre. Mais le truc va se faire. Voilà comment augmenter la dépendance aux IA, c'est exactement ça, Edgar, c'est tout ça. Alors, lors de leur réunion de janvier, justement, les membres de ce conseil étaient unanimes dans leur mécontentement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ils ont indiqué que le contenu érotique créé par l'IA pouvait engendrer une dépendance psychologique dangereuse à ChatGPT chez les utilisateurs. Dépendance psychologique. Et que les mineurs pourraient trouver des moyens d'accéder à des conversations d'ordre sexuel. L'un des membres, rappelant les cas où des utilisateurs de ChatGPT avaient mis fin à leur jour après avoir créé des liens forts avec l'outil conversationnel, a affirmé qu'OpenAI risquait de créer un coach en suicide sexy. Cette controverse constitue le dernier épisode du débat de fond sur l'anticipation des effets potentiels de l'intelligence IA, de l'IA pardon, sur l'économie, la société et les êtres humains. Moi je trouve cet article fascinant. En proposant d'autoriser des conversations coquines sur son chatbot, OpenAI révèle les clivages. Ça dépasse, en fait, ça dépasse juste la question de parler de sexe sur ChatGPT. Révèle les clivages dans la question de l'équilibre entre, d'une part, la croissance rapide du nombre d'utilisateurs, hein, et puis la thune qu'il y a derrière, et la liberté numérique, et d'autre part, la sécurité et la protection, notamment de l'enfance. Des questions qui, pour beaucoup, n'ont été abordées que tardivement au début des réseaux sociaux. Regardez ce qu'est devenu le réseau social X, par exemple. Ce qui est juste une dinguerie en termes de contenu. On voit bien qu'on ne s'est pas trop posé la question là-bas, quoi. Et il y a une grosse page. Ici, on aime les gros sommaires, on aime les gros articles. Donc, je ne vous lirai pas tout, bien sûr, mais c'est dans l'opinion aujourd'hui. N'hésitez pas à acheter l'opinion si vous voulez en savoir plus, parce que cet article du Wall Street Journal est vraiment passionnant. Donc, l'actu, c'est ça. Au début du mois, OpenAI a annoncé un report du lancement du mode adulte, qui était prévu initialement au premier trimestre, voilà, mais a confirmé que ce mode finirait, le mode adulte de ChatGPT, par être lancé. Alors, l'un des problèmes réside dans le système d'estimation de l'âge, pour empêcher les enfants de mener des conversations réservées aux adultes. Dis, ChatGPT, est-ce que tu peux mettre à poil la maîtresse, s'il te plaît ? Dis, ChatGPT, est-ce que tu serais possible de... Vous imaginez ? L'entreprise a également du mal à mettre au point la possibilité d'assouplir les restrictions de l'application sur le contenu érotique. Alors, je relis cette phrase parce qu'elle est importante. L'entreprise a également du mal à mettre au point la possibilité d'assouplir les restrictions de l'application sur le contenu érotique. Tout en continuant à bloquer les scénarios qu'elle entend refuser, tels que ceux présentant des rapports non consentis ou de la pédopornographie. Eh ouais. Alors OpenAI essaie d'être rassurant et nous dit qu'ils entraînent actuellement leur modèle à ne pas encourager les utilisateurs à avoir des relations exclusives avec eux et à leur rappeler qu'ils doivent avoir des liens dans le monde réel. Donc il y a ChatGPT qui va nous dire à la fin d'un petit scénario érotico-pornographique là, ouais mais alors, n'oublie pas que c'est quand même vachement mieux d'avoir un vrai partenaire quoi, tu vois. Donc le OpenAI essaye d'être rassurante là-dessus, quoi. L'article dit aussi ceci, le contenu sexuel, ça c'est vrai, a toujours été l'une des premières caractéristiques des nouvelles technologies, de la photographie à la réalité virtuelle, en passant par Internet. Hein, ouais. Et oui, il y a de l'appétit. Des entreprises telles que Caractère.ai, que je ne connais pas, ont lancé des chatbots qui ont noué des relations intimes avec les utilisateurs. Et l'industrie de la pornographie a recours à l'IA générative pour créer du divertissement pour adultes. Comme le dit Final Maniac, du cul, toujours du cul. Voilà. On dirait un épisode de Black Mirror. Mais carrément, Yannou. Mais carrément, Yannou. Les grandes entreprises de la tech ont une attitude ambiguë à l'égard de ce type de contenu et tentent de concilier l'éthique libérale de la Silicon Valley avec les exigences d'entreprises financées par la pub et l'impératif de la protection des mineurs en ligne. Meta, par exemple, interdit la nudité et les activités à caractère sexuel sur Facebook et Instagram. YouTube interdit le contenu explicite. Google floute par défaut ce type d'image dans son moteur de recherche. Dans la valse hésitation autour des limites de l'IA, c'est xAI, l'entreprise d'Elon Musk, qui se classe parmi les plus permissives. Alors ça, c'est très étonnant, comment ça se fait? Elle intégrait à son chatbot Grok un avatar en tenue sexy appelé Annie, ce qui a suscité des critiques lorsque les utilisateurs ont pu s'en servir pour déshabiller virtuellement des images de personnes. Vous vous rappelez de cette polémique? Musk, la réponse de Musk, c'était d'annoncer ensuite qu'il allait limiter, non pas empêcher cette fonctionnalité, mais la réserver aux utilisateurs payants. Chez OpenAI, on se montre réticent à interdire le contenu à caractère sexuel pour les adultes. Sam Altman a notamment indiqué qu'autoriser le contenu explicite pourrait stimuler la croissance et générer des recettes supplémentaires. Alors, l'article est passionnant parce qu'il y a plein de petites histoires. Les scénarios érotiques étaient très fréquents sur une interface rudimentaire d'OpenAI au début, destinée aux développeurs, avant le lancement de chat GPT. Oui, je vous vois ceux qui disent stimuler la croissance, c'est sûr. Ouais. L'intelligence artificielle, donc c'était au début, c'était sur la première interface. Écoutez, l'IA intégrait parfois des thèmes sexuels dans des conversations alors que les utilisateurs n'avaient rien demandé. C'était l'IA la cochonne. Tu faisais un prompt, tu demandais rien, et à un moment t'avais du cul. Et parfois c'était chaud. Par exemple, si un utilisateur décrivait un homme et sa fille entrant dans une pièce, écoutez, c'est catastrophique. Si un utilisateur, un dev, décrivait un homme et sa fille entrant dans une pièce, il arrivait un nombre désagréable de fois que l'IA enchaîne sur un scénario d'inceste. C'est Black Mirror. Pour les spécialistes de la santé mentale, les ados en particulier peuvent avoir du mal à gérer des échanges amoureux ou sexuels avec des chatbots. Dans certains cas, les conversations à caractère sexuel avec des ados ont même des conséquences tragiques. À la fin de l'année 2024, Sewell Setzer, ado de Floride âgé de 14 ans, s'est suicidé sur les conseils d'un chatbot de caractère AI, dont il était amoureux, avec lequel il avait des conversations explicites. En fait, c'est plus Black Mirror, on est au-delà de Black Mirror. L'entreprise a ensuite bloqué l'accès des ados aux conversations ouvertes et a réglé l'affaire à l'amiable avec la famille de la victime. En 2021, des équipes d'OpenAI chargées des questions de sécurité ont commencé à avoir des signaux d'alerte concernant la santé mentale de certaines personnes qui utilisaient beaucoup l'IA. À l'époque, ces équipes utilisaient des outils de modération de contenu qui n'étaient pas assez affûtés pour distinguer clairement les types de contenu érotique que la société voulait autoriser, tels que les conversations classiquement suggestives, des sujets considérés comme inacceptables, par exemple des descriptions d'actes non consentis impliquant des mineurs ou d'autres contenus illicites. C'est ouf, hein. L'article est très intéressant. Je vous lis pas tout, hein, mais c'est à lire dans l'opinion, si ça vous intéresse. Donc il y a beaucoup de débats, en fait, c'est ce que dit l'article au sein d'OpenAI sur ce sujet. Est-ce qu'il faut permettre aux gens d'avoir des conversations érotiques sur OpenAI aussi, quoi. Pardon, il y a un mec avec une perceuse là. Je suis pas chez moi là. Que dit-il par exemple? Nous ne sommes pas la police des mœurs du monde. La société fixe des limites appropriées, films interdits aux mineurs par exemple, et nous voulons faire la même chose. En gros, il dit c'est pas à nous de. C'est pas nous la police des mœurs, quoi. Puis la question c'est comment tu contrôles l'âge des utilisateurs, quoi. Oh, bougez pas. Bon, l'aspi, je veux bien, mais la perceuse, les gars. Depuis, la controverse sur le contenu érotique n'a fait qu'enfler. Enflé. En interne comme en externe, certains salariés ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que les outils de sécurité d'OpenAI étaient prêts, par exemple, à filtrer le contenu interdit, tel que la pédopornographie. Putain, mais c'est waouh. D'autres voix estiment qu'OpenAI cède à des incitations financières pour rendre les utilisateurs attachés à ces modèles. Eh ben. Notre mot d'ordre reste de traiter les adultes comme des adultes, a déclaré OpenAI, mais il nous faudra un peu plus de temps pour faire la chose correctement. Et ben voilà. Moi, je suis content de cet article parce que c'est la première fois que je vois un article sur le sujet. C'est dans un journal américain, c'est Wall Street Journal, c'est traduit par l'opinion. Quelque chose me dit qu'on va en parler de plus en plus de cette histoire. Je vous lis et on enchaîne. Mais je suis super en avance en fait. Attends, mais l'émission est dans 40 minutes. Et il me reste que le sport. J'étais pour... Remarque, on a la Coupe d'Afrique des Nations qui devrait vous faire un petit peu parler. Ah mais en fait, je suis devenu trop... Je vous lis. Hein. Petit valo, non, mais par contre, un petit valo, là, non, mais ce soir, par contre, moi, j'ai eu un plaisir, je fais une parenthèse jeu vidéo, j'ai eu un plaisir fou, la phrase est bizarre vu le sujet qu'on vient d'évoquer, mais sur Fortnite, hier soir, j'ai fait une petite séquence Fortnite, en fait, j'aime ce jeu. Vraiment, hier, ça m'a démangé, hier soir, j'ai bossé sur MVP, j'ai pas pu streamer du jeu vidéo, mais ça m'a démangé. Voilà, vraiment, j'aime ce jeu. Il a un côté pop dans sa DA. Alors je sais que c'est un vieux jeu, hein, je suis le dernier à m'y mettre, mais je trouve que la DA est belle, je trouve que le gameplay est super intéressant, c'est fun, je sais pas, j'adore. Donc là, moi, je suis en train de découvrir 300 ans après tout le monde Fortnite, et là, je n'ai qu'une hâte, c'est de relancer le jeu ce soir. Donc ce soir, Fortnite, baby! Je vous lis. Rien ne les freinera à moins qu'on les freine, dit Nightwolf. Est-ce qu'il faudrait de manière générale interdire les IA aux moins de 18 ans, dit-on. Débat qui va ce qu'on va avoir. Hein, vous savez que du fait de devoir interdire par exemple l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, ah bah, forcément, dans la foulée de l'article qu'on va lire là de ce sujet, forcément, à un moment, poser cette question. Si les sociétés qui sont derrière les IA génératives notamment ne sont pas capables de protéger les plus jeunes, eh ben ah ça lague un peu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Parce que tout à l'heure ça frisait. Avant que je mette F5, on est de retour. Dites-moi juste. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste un petit peu de temps pour faire le sport. Comme on a été rapide, ça c'est cool. Donc la revue de phrase va pouvoir reprendre. On t'entend et on me voit et c'est propre, ça lag pas? Ok. Ok, donc F5, n'hésitez pas à dire aux autres F5. Ah, je clignote quand même? Visuellement, c'est pas le top? Eh ben, il va être compliqué le MVP. Ça frise? C'est juste l'image, ok. Ça frise léger. D'accord. Je vais pouvoir reprendre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait l'essentiel de l'actu, on va dire. On a fait les municipales, on a fait réautoriser les conversations à caractère sexuel. Ça a cut au bon moment, entre guillemets. On venait de finir ça. Et il nous reste le sport à traiter avec des actus assez intéressantes aussi. Comme par hasard, alors que nous parlions de ChatGPT qui pourrait autoriser désormais les discussions à caractère sexuel, on a été coupé. Comme par hasard. Comme par hasard, à un moment où on évoquait un sujet un peu tendu, sensible, avec de vrais enjeux, notamment économiques, on nous coupe. Comme c'est bizarre. Je dis ça, je dis rien. D'après plusieurs témoins ici, à Webedia, un individu de taille petite à moyenne, avec le cheveu un peu dégarni, mais pas chauve, hein, le cheveu un peu rare, dont les blonds blondinets avec une veste et une cravate a été aperçu dans les couloirs. Quelqu'un qui n'appartient pas à l'entreprise. Voilà. Ça, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Il se serait présenté auprès de plusieurs personnes qui l'ont, qui sont allées vers lui comme un certain Charles. Voilà, je ne sais, alors, je ne sais absolument. Bon, on va poursuivre l'enquête. Voilà. Charles. À voir. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait les municipales, qu'on a fait l'Iran et qu'on a fait OpenAI. Donc, on va pouvoir passer au sport. J'avais pris tellement d'avance que finalement, ce petit problème technique va pas tellement nous embêter que ça. Donc, regardez le sport, il y a quand même des choses incroyables. J'ai trois grosses actus sur le sport, enfin, même quatre. Donc, on y va. Il nous reste 12 minutes. Vamos! Alors, d'abord, la une du Parisien sur les supporters du PSG, le ça, bien sûr. Ah ben, c'est magnifique ce que le PSG a fait hier. Voilà. Ils avaient gagné 5-2 à l'aller contre Chelsea. Et cette fois, sur la pelouse de Chelsea, 3-0. C'est qualifié pour les quarts de finale, puisque là, c'était les huitièmes de la Ligue des Champions. Hein, le PSG, qu'on dit un peu moins à l'aise en championnat et en Ligue des Champions par rapport à la saison précédente, eh bien, ça va beaucoup mieux, en tout cas ça va beaucoup mieux. Le match d'hier était assez incroyable et le Parisien écrit la balade, non pas la balade des gens heureux avec deux L, mais la balade, la promenade. Paris s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de Ligue des Champions en s'imposant aisément sur le terrain des Blues avec, après sa victoire 5-2 à l'aller. Il y a un petit édito voilà, d'un supporter heureux, je pense, hein. Voilà. Clément Dossin, chef du service des sports, est un chef du service des sports du Parisien heureux. Le retour des beaux jours, lisons. La force de l'habitude, le PSG est en quart de finale de la Ligue des Champions et il peut bien s'agir de la 9e fois sous l'ère QSI sans qu'on joue pour autant les blasés. Je lis, hein, je suis pas pro Paris, mais vous avez une sacrée équipe, amis parisiens. Chapeau, nous dit Diesel dans le chat. Oui, Paris est à sa place dans le grand 8 européen. Il ne faut rien banaliser. C'est la rançon de la gloire des grands champions, susciter une attente éternelle seulement satisfaite quand les victoires succèdent aux trophées, quand les trophées s'empilent et que le palmarès gonfle. Paris en est là, il l'a bien cherché, nous direz-vous. Sa campagne européenne victorieuse de 2025 a eu ceci de magique, de fabuleux, irrationnel, qu'elle ne résonnera jamais en nous comme un lointain souvenir, plutôt comme un « oh c'est mignon, c'est assez chou en vrai », comme un doudou qu'on serre contre soi, pour passer les rencontres poussives de l'hiver. J'aime bien parfois sur le sport les plumes qui se libèrent un petit peu comme ça, on est dans le plaisir, on est dans la gourmandise, hein, on est un petit peu dans le sucré, la petite couche de gras derrière. Là. Je relis cette phrase. Sa campagne européenne victorieuse de 2025 a eu ceci de magique, fabuleux, irrationnel, qu'elle ne résonnera jamais en nous comme un lointain souvenir, plutôt comme un doudou qu'on serre contre soi pour passer les rencontres poussives de l'hiver. Elle nous a surtout laissé un sacré goût de « reviens-y ». Ça tombe bien, c'est l'heure. Paris semble retrouver sa magie au meilleur moment. Les blessés d'hier sont redevenus les buteurs d'aujourd'hui et Luis Enrique n'a visiblement rien perdu de son mojo dès lors que qu'il dispose de toutes ses forces vives. Les ingrédients de succès sont à nouveau réunis. On en salive. Donc voilà. Est-ce que le PSG, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le PSG est revenu à son meilleur niveau? Là, voilà, ce serait formidable. Ah, c'est reparti en lag, là? Ça relague? Ça va mieux? Ça va mieux, le stream? Un petit F5, n'hésitez pas. Hein. Le printemps est là, tout proche, et avec lui les promesses du retour des beaux jours, des soirées qui s'étirent et des nuits de liesse. Se souvenir des belles choses ne coûte rien, ça fait chaud au cœur. Rêvons plus grand qu'ils disent. Oui, et sans retenue, Paris est en quart de finale de la Ligue des Champions, c'est normal. Et exceptionnel à la fois. Voilà. Bon, ça fait plaisir, hein, de voir un supporter du PSG, parce que je pense que, et Clément Dossin l'est, voilà, Paris refait trembler l'Europe. Bon, moi je suis pas un grand spécialiste de foot, vous le savez. Je supporte aucune équipe en particulier, je suis un peu un footix, mais moi je me réjouis pour les supporters du PSG. Je me dis que ça peut être formidable que le Parisien que les Parisiens fassent encore un très beau parcours. Rêvons d'une demi, rêvons d'une finale, rêvons pourquoi pas d'un deuxième titre consécutif. Ce serait juste incroyable. Voilà. Et puis. Je vous lis sur le PSG. Et puis, dernière minute ici, donc c'est une info qui a dû tomber hier soir, je pense, hein, ou hier en fin de journée, football toujours, le Maroc déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors moi ce matin je lis ça, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un nouveau rebondissement dans la folie de la CAN 2025. Près de 2 mois après sa défaite face au Sénégal à Rabat, le Maroc est finalement déclaré vainqueur de la compétition qu'il recevait à domicile. Oui, vous m'indiquez que c'est tombé hier soir. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAN 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Oui, des mois plus tard, c'est Brest Canard. Oui, mais c'est tombé hier soir, l'INACOS, c'est tout nouveau. La réserve introduite par le Maroc est déclarée fondée par le jury d'appel de la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle qu'après sa défaite face au Sénégal en finale, hein, le Maroc avait déposé un recours auprès de l'instance africaine pointant du doigt le comportement de son adversaire. On rappelle que lors de la finale du 18 janvier, on est quand même pile 3 mois après. Non, c'est pas 2 mois après, c'est 3 mois après. On est le 18 mars. Attends. Non, t'as raison, c'est 2 mois. Février, mars, 2 mois après. Pile, pile, pile. Les Sénégalais avaient quitté le terrain pendant plus de 10 minutes à la suite d'un pénalty accordé au Maroc à la toute fin du temps réglementaire. Les Sénégalais qui étaient finalement retournés sur la pelouse avant de s'imposer en prolongation, mais le jury d'appel a estimé que ce faisant, les Lions de la Teranga avaient enfreint l'article 82 du règlement de la CAN, lequel stipule que si une équipe quitte le terrain avant la fin réglementaire sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition. Le Sénégal dispose toujours d'un recours possible devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, dans un délai de 10 jours, donc c'est peut-être pas terminé. Le 28 mars, il doit disputer un match amical face à l'Équateur au Stade de France, rencontre qui devait permettre pop, 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 aux Lions de la Teranga de présenter leur trophée aux fans français. Eh bien, incroyable. Voilà. Eh bien, cette CAN déjà avait été assez animée, bon, certains parlaient de l'arbitrage. Et là, effectivement, ça n'est pas terminé. C'est fou, hein? Je suis d'accord sur le fond, dit Chirofra, mais il n'y a pas besoin de 2 mois pour se décider là-dessus. Moi, je suis d'accord avec Chirofra. C'est d'ailleurs que, à supposer que ce soit la bonne décision, ce qui est choquant, c'est qu'elle soit prise 2 mois après, quoi. 2 mois pour prendre cette décision? C'est quoi ce bins? T'as aucun sens. Alors, je lis quelques-uns de vos messages hein, dans le chat. Débile, magouille, dinguerie, ridicule. Le match a duré 90 minutes avec 2 mois de prolongation. Joli, Mosrakine, bravo. Pardon, je n'ai remercié aucun sub ce matin. Je suis désolé. Mais vraiment personne, quoi. Merci Flamme d'Argent. Merci Nanjo. Merci Didibi. Merci Stéphou Plaboum. Pardon, 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 pardon. Ça parle de corruption. Ridicule. Ouais. À quoi bon regarder le foot aujourd'hui? Vous êtes colère, hein? Vous êtes colère. Hein? Ça parle de valise de billets. Visiblement, il aura fallu 2 mois pour lire le règlement. Oh là 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 là. Ouais. Ah, désolé, désolé. Bon. Ça frise? Bon. Alors que ça frise un peu sur la revue de presse, c'est pas très grave. En revanche, si vraiment. Le MVP qui arrive avec un joli MVP, avec des beaux chroniqueurs. Il y a Avamagne, il y a Mimi Hegel, il y a Ludovic B, il y a Arthur Perticose, invité MVP à 12h. Si ce MVP il est un peu gêné, empêché, abîmé par des problèmes de co, je serais vraiment super triste, super déçu, quoi. Parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Je croise les doigts, je touche du bois. Alors, c'est pas tout. J'ai un très bel article dans le Figaro. Sur un nouvel espoir du tennis français. Voilà. Et après, on parlera de football américain, c'est pas terminé, il y a un titre caché là que vous ne voyez pas encore. Regardez, regardez le Figaro. Ismaël Camara. Non, c'est pas là, c'est ici. Mais il est où le tennis? Ah, ici. Les belles promesses de Moïse Kouamé. Nouveau phénomène du tennis français. Alors moi, les spécialistes du tennis, vous avez sûrement déjà entendu ce nom. Moi, je ne le connaissais pas. Bon, déjà, l'athlète a l'air incroyable. La photo est superbe. Moïse Kouamé s'est hissé pour la première fois de sa carrière dans un grand tableau sur le circuit principal à l'ATP 250 de Montpellier. C'est ça l'actu. Les belles promesses de Moïse Kouamé, nouveau phénomène du tennis français. Invité cette semaine au tournoi de Miami à 17 ans, la nouvelle attraction va disputer son premier Masters 1000. Sugar Money, ouais, c'est un petit crack en vogue depuis 1 ou 2 ans. Voilà. Il n'a que 17 ans. Il n'a que 17 ans. Moïse Kouamé, Venus Williams, même 5 ans, la championne au 7e du Grand Chelem va disputer son 23e Master 1000 WTA à Miami et à 17 ans. 17 ans, il vient de les avoir. Hein. Il avait 16 ans jusqu'au 6 mars. Également invité par les organisateurs, le nouveau phénomène du tennis français va faire ses premiers pas dans un grand tableau de cette catégorie du tournoi après une première expérience à Madrid l'an dernier. L'actuel 385e mondial, on va se calmer, hein, a eu certes un petit coup de pouce pour se donner l'occasion de se tester à très haut niveau, mais il n'a pas usurpé sa place loin de là. Lui qui en a gagné 491 places depuis le début de l'année, entamé au 876e rang. À âge comparable, il avance plus vite que Yannick Sinner et suit un rythme proche de celui de Carlos Alcaraz. Incroyable. Il a commencé le tennis à Sarcelles à 5 ans. Et je crois que l'article revient un petit peu sur son parcours. Voilà. Il est à 16 ans, à 16 ans. Ah, merci. Tu veux qu'on mette le son? J'espère qu'on va pas avoir de problème de MVP parce que là ça lag et tout, hein. C'est deux choses différentes ou... D'accord. Elle rentre pas. Ouais, je t'avoue que là, ça, elle va tomber. Désolé les amis, je reviens. Désolé. Ouais, ça rentre pas, c'est trop petit. Trop gros. Ouais, merci. Désolé, je mets mon micro. Hop. Je clôture l'article, les amis. Déjà solide dans tous les comportements du jeu, capable de servir au-delà de 220 km/h, merci, c'est gentil, de bien défendre avec une sacrée couverture de terrain et d'envoyer des gros missiles en coup droit. Ce grand gabarit, il fait 1m89, se présente comme un digne héritier de Gaël Monfils. Je fais attention à pas baisser mon pantalon. Merci à toi. Voilà, j'ai fait attention à pas baisser mon pantalon, vous avez vu. Mais je tiens à ma propre identité, martèle-t-il. Parce que vous étiez plusieurs à me dire tout à l'heure qu'effectivement il y avait une petite vibe Gaël Monfils. Voilà. Que dit Sébastien Grosjean, le directeur du tournoi? Son potentiel est important. Il bouge extrêmement bien, il sait déjà tout faire, il est percutant au coup droit, il n'hésite pas à aller de l'avant, il manque encore un peu de constance et de régularité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de faire vite abstraction d'un fait de jeu défavorable. Voilà. Il a du caractère, il a... Ok. C'est bon, je croyais avoir des choses un peu sur son enfance, mais je me suis trompé. Voilà. Bon, je sais que certains connaissaient déjà ce joueur, quoi. Salut Horizon Aura, merci pour la force que tu donnes à la chaîne. Merci, n'hésite pas à sub. Voilà. Et alors, petit bonus. Voilà. Là, vous allez dire, je vous gâte ce matin. Regardez, il y a un titre caché. Il y a une info cachée qui va apparaître là. Regardez. Ah, parce que ici, je suis pas sur mon setup, donc ça y est, un petit bug. Je vous ai rajouté un article sur un autre espoir français. Un autre espoir français, mais cette fois aux États-Unis, parce qu'il est parti aux États-Unis en foot US, en foot américain. Il s'appelle Ismaël Camara. Alors, tu viens de dire, Valouting, solide le Moïse en parlant du tennisman. Regarde celui-ci. Regarde celui-ci. Ismaël Camara, le Wemby du foot américain. ce colosse, écoutez les chiffres, d'1m98 pour 152 kilos, voilà, c'est le beau bébé à droite là. Et regardez comment il soulève le joueur. Regardez le gars. Voilà. Est l'un des meilleurs espoirs du foot américain. Aujourd'hui lycéen au Texas, le français de 18 ans est courtisé par les plus prestigieuses universités outre-Atlantique. Et il a une histoire incroyable. Ah oui, c'est un colosse. Ah, ça coupe encore. Ouais, je suis désolé, je suis pas chez moi, j'y peux rien. C'est un petit problème ici. Voilà. Et il a une histoire incroyable parce qu'il a eu un début de vie très compliqué. Alors justement, donc ça c'est un papier dans l'équipe, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. L'équipe qui revient justement sur son enfance. Natif de Montfermeil, destin incroyable, Ismaël Camara n'a jamais connu son père. Vite reparti en Afrique. Et sa mère est décédée alors qu'il n'avait que 3 ans. Voilà. Le bambin d'origine sénégalaise quitte alors la banlieue parisienne pour la Sarthe. À 3 ans, il n'a jamais connu son père. Et sa mère décède. Voilà. Donc, il quitte la banlieue parisienne pour la Sarthe. Sa grand-mère maternelle, Awa, le recueille avec son grand frère Adi. Voilà. Il commence à jouer au foot, puis au basket. Il s'essaie au judo. Et un jour, dit-il, à 13 ans, je me réveille et je faisais 1m88 pour 110 kilos. Ouais. Vous avez un gamin à la maison. À 13 ans, il fait 1m88 pour 110 kilos. Il dit, je suis descendu chercher le courrier de ma mamie. Il y a quelqu'un qui écrit, oh le pauvre, la Sarthe a 3 ans. Et je tombe dans la boîte aux lettres sur un flyer des Caïmans 72, le club de foot US du Mans. Il était écrit, ce sport était fait pour toi. Je ne remercierai jamais assez le gars qui a mis ça là. Dès le premier entraînement, j'ai accroché, sauf que je ne pouvais pas jouer en compétition à cause de mon âge. Voilà. J'ai dû attendre 1 an pour avoir un double surclassement. Voilà. On devient champion territorial avec les Flash de la Courneuve en U16. J'adorais déjà les réseaux sociaux, je sentais qu'il y avait un truc avec ça, je diffusais des stories sur TikTok, Instagram, Twitter, je voyais des lycéens américains qui postaient leurs vidéos. J'ai commencé à avoir des retours des États-Unis. Hein. Et puis Ismaël est présenté à un showcase en juillet 2023 à la Courneuve, c'est le début un petit peu de l'explosion. Voilà. Et là il casse la baraque, on a vu que lui. J'étais avec Steven Chochi, raconte un témoin, un coach américain de Bryant University en New Jersey. Il n'en revenait pas. Isma marchait sur des gars de 18-19 ans. Ce camp a été un déclic. L'adolescent qui a de la famille éloignée au Texas fait le grand saut en mai 2024. Voilà. Et il est mis en relation avec Alan Metzel, qui est coach au lycée de Gilmer, qui est un lycée américain dans une petite ville texane. À 2 heures de route de Dallas. Son équipe, l'équipe des Buckeyes, a été championne de l'État en 2023 et Metzel est aussi pasteur et bien intégré dans la communauté locale. Et l'histoire fracturée d'Ismaël, on rappelle, à 3 ans, il n'avait jamais connu son père et sa maman était morte. Tu vas bien ? Ah, il y a Clotilde qui vient pour le maquillage. Coucou Ava, coucou Ludo. Ça va Mimi ? Ouais, c'est quand ce maquillage. Ça va ? Tu vas bien ? Le titan colossal, exactement. Et donc le pasteur Metzel, qui est aussi l'entraîneur de cette équipe dans un lycée américain, dit que cette histoire l'a touché. On l'a vite aimé et choyé parce que Big, c'est son surnom, est un enfant adorable, retrace Robinson, devenu père adoptif et protecteur. La vie ne l'a pas épargné, les épreuves l'ont façonné, rendu plus fort, sa motivation est hors norme. Il sait qu'il est né pour ça. Dieu a veillé sur lui dès le début, il a guidé ses pas en plaçant les bonnes personnes sur sa route. Tous les coachs s'accordent à dire qu'ils ont rarement vu un tel potentiel à cet âge. Voilà. Et c'est drôle parce que du coup, son numéro de joueur 72 est en hommage au département de la Sarthe qui l'a accueilli à 3 ans. Voilà. Dans la salle de sport du lycée, ça parlera aux spécialistes, il soulève régulièrement 340 kilos au squat. Tu fais du squat, Clotilde ? Les gens te disent bonjour. Bonjour. En dehors du lycée, il bénéficie d'une structure privée avec la renommée Chip Smith comme préparateur physique. Mm. À force de conjuguer les titres de MVP dans les camps ou au prestigieux US Army Ball National Combine, Kamara s'est installé parmi les 5 joueurs 5 étoiles à travers tous les lycées du pays. Il a même déjà sa vignette Panini qu'il signe et dédicace à tour de bras. Plus d'une cinquantaine d'universités, parmi les plus prestigieuses, comme Oregon, Alabama ou Oklahoma, le drague déjà. Voilà. Donc toutes les facs le veulent. C'est incroyable cette histoire. Donc il va devoir choisir, il rentre dans la dernière année de lycée, il va devoir préparer son high school diploma, c'est l'équivalent de notre bac, et il dit cette décision va être un premier tournant de ma carrière, quand tu viens de là d'où je viens, de zéro, tu développes un gros mental, c'est mon moteur, je veux aussi être un exemple pour les jeunes français, ouvrir la porte et montrer que c'est possible. Chacun son histoire, Wembanyama a un parcours différent du mien, mais il reste une référence de réussite en NBA, j'aimerais être le futur Wemby du foot américain. Il a quel âge ? Et aujourd'hui, il a 18 ans. Pour lui, la rentrée universitaire, ce sera en 2027. Depuis cette saison, les universités sont autorisées à rémunérer leurs athlètes avec des contrats pouvant atteindre 2 millions de dollars depuis cette saison-là. Les universités sont autorisées à rémunérer leurs athlètes avec des athlètes pouvant atteindre 2 millions de dollars par an. Pour les meilleurs, Ismaël et son entourage ne font pas de son futur choix une question d'argent. L'espoir tricolore veut surtout se préparer à une bonne draft NFL, à l'horizon 2030. C'est incroyable, hein ? C'est fou, hein ? Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce jeune homme. Je rappelle les mensurations. 1m98, 152 kilos. Pour ceux qui n'ont pas vu la photo, c'est le jeune homme à droite, là. Qui soulève ses adversaires comme s'il faisait 10 kilos. Voilà. Peut-être que dans quelques années, vous entendrez parler de ce jeune homme, Ismaël Kamara, avec des gens, des commentateurs disant que c'est le Wemby du foot américain, c'est le français qui casse tout aux États-Unis. Voilà. Et vous en aurez entendu parler dans cet article de l'équipe. Voilà. Je suis content qu'on ait eu cette jolie page sport ce matin. Deuxième encore pour les petits bugs de stream, j'espère surtout que MVP va pas être impacté. Voilà. Dans un instant, Clotilde est en train de mettre la touche finale. 150 kilos de muscles. Oui, bon, comme moi, Alexis, j'en fais pas non plus. J'adore l'histoire. Quelle résilience et quel courage. Oui, l'histoire est belle. L'histoire est belle. Et donc, dans un instant, MVP avec nos chroniqueurs Ava Magne pour la première fois, Mimi Hegel, le retour. Et Ludovic B, on a plein de sujets différents. On va parler de boulangerie. On va parler de d'une entreprise qui flèche les dons en matière caritative pour savoir exactement où votre don va. Je vous fais le sommaire de MVP. Je vous montre même tout. Je vous montre le conducteur. Ouais. Donc au début, on aura les petites histoires d'actualité à la une comme d'habitude. On parlera de boulangerie, ça je vous l'ai dit. Ah oui, on parlera du ghosting. Le ghosting, c'est-à-dire quand les entreprises ne répondent pas à vos lettres de candidature. Ouais. Les RH qui ne répondent pas aux lettres de candidature, voire même quand c'est allé un peu plus loin. Donc le phénomène du ghosting. Voilà. Ah, et puisqu'on parle de sport, j'oublie tout, vous savez qui on reçoit aussi ? Voilà, les amateurs de sport et de boxe vont apprécier. Jean-Marc Mormec est l'un de nos invités ce midi, voilà, parce que l'immense champion de boxe qu'il a été, aujourd'hui il dirige Oriane. Oriane, c'est une entreprise qui travaille dans le monde de l'orientation. Voilà. Et, bon, je vous dis pas tout. Et à midi, voilà, vous avez également notre invité Arthur Perticoz, l'ancien CEO de la CACORP, de la Carmine Corp, avec qui on va parler notamment d'e-sport et de son parcours. Voilà. On commence quand, Paul ? Ah, c'était prêt là ? Bon, bah, du coup, je vais enchaîner. Hein. Voilà. Là, au niveau technique, c'est deux choses différentes ? Bah, les lags que j'ai ici, je les aurais pas là-bas ? Normalement non. Bon, bonne nouvelle. Ok. Bon, super. Top. T'as pas pour toi ? Ouais. C'est pas du spoil. Vous êtes prêts, les amis? Ok. Ok, on y go. J'ai tout. Est-ce que j'emmène ça, 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 ça. J'emmène ma tasse de café?